En juin 1914, Henri Barbeau fait paraître son premier roman, Paris en feu, Ignis Ardens. Presque entièrement oublié aujourd'hui, ce texte présente une vision désordonnée de la France au seuil de la Grande Guerre. Dans les 180 pages d'un texte qui mêle la science-fiction au mysticisme religieux, Barbeau met tour à tour en scène une révolution franc-maçonne, le martyre des croyants catholiques, la conversion des églises françaises en cinéma pornographique et en temple satanique, une invasion des Zeppelins allemands, un complot religieux qui avait eu une prophétie annonçant la destruction de Paris et, finalement, une explosion d'ondes hertziennes émise par la tour Eiffel qui consume dans un feu sacré l'armée allemande en même temps que la capitale. Étant donné cet étrange amalgame de genres et cette intrigue étonnante, Paris en feu pose avant tout le problème du mode de lecture. Tout lecteur est immédiatement interpellé par la question de savoir quelle peut être l'approche la mieux adaptée à un texte qui allie, sans distinction aucune, la propagande politique, le roman d'anticipation et le mysticisme catholique. Certes, nous pouvons d'abord y voir une sorte de roman à clé, racontant les rapports de Barbeau avec son guide spirituel, Léon Blois. Il est facile de voir les personnages principaux de Paris en feu, les frères Victorien et Félix d'Antenne, comme étant les avatars de Barbeau et de Blois. Victorien étant doté de science sans morale et Félix de morale sans science, leurs conversations reprennent le cours des échanges qui avaient amené Barbeau à abandonner sa passion pour les sciences occultes afin de rejoindre la morale stricte de Blois. D'ailleurs, Éric Houellebecq nous rappelle dans son article « Léon Blois, héros » que le deuxième roman de Barbeau, Saint-Front, représente un exemple clair de roman à clé où l'on devine Blois sous les traits du personnage éponyme et où l'on reconnaît, par exemple, son pamphlet « Je m'accuse », désormais intitulé « Zola aux crottes ». Si cette lecture biographique permet d'imposer un début d'ordre à l'intrigue chaotique de Paris en feu, toujours est-il que ce mode de lecture ne tient pas compte de l'importante trame intertextuelle qui se noue entre le roman de Barbeau et celle qui pleure, Notre-Dame de la Salette, le texte où Blois transmet les révélations de la Vierge faites à Mélanie Calva en 1846. Justement, Barbeau détourne le roman d'anticipation de sa visée scientiste et positiviste afin d'en faire un outil de la prophétie religieuse. Aussi doit-on reconnaître dans Paris en feu la continuation et la confirmation de celle qui pleure. D'ailleurs, Barbeau connaissait d'autant mieux ce texte que c'est lui qui fait la mise en page de celle qui pleure. Il n'en demeure pas moins que cette situation intertextuelle est d'autant plus compliquée que l'hypothèque servant de source à Barbeau n'est pas, de son point de vue, un quelconque écrit profane. Aussi, l'optique intertextuelle n'arrive-t-elle pas non plus à saisir entièrement l'enjeu d'un texte dont la particularité est justement de s'éloigner de la fonction mimétique qui revient normalement au roman. Ni reflet, ni imitation du monde d'ici-bas, l'écrit de Barbeau s'inscrit plutôt dans une épistémologie de la révélation. C'est-à-dire que Paris en feu se met en scène comme texte intermédiaire. Sa particularité est de traduire dans les termes du monde matériel une vie spirituelle qui dépasse le cadre du savoir humain. La première étape dans le déchiffrement du roman de Barbeau serait donc de reconnaître la distance séparant Paris en feu de la littérature profane du début du XXe siècle. Tout en affichant une modernité certaine, en empruntant des traits du roman d'anticipation, Paris en feu est voué à demeurer une suite de scènes désordonnées pour le lecteur qui ne sait adopter un mode de lecture pré-moderne. En effet, c'est par les rapports intertextuels avec la prophétie rapportée par Blois dans « Celle qui pleure » que l'écrit Barbeau fait appel aux quatre sens herméneutiques de l'exégèse médiévale, l'historia, l'allégoria, la tropologia et l'anagogia. Évalué selon cette mesure quadruple, le chaos apparent de Paris en feu prend un relief qui ordonne le texte de Barbeau. Chaque niveau herméneutique agit pour éclairer le prochain, le tout tendant vers une signification anagogique, à savoir une signification qui se situe au-delà du monde matériel. Ceci nous amène donc au niveau historique littéral de Paris en feu. C'est en puisant dans le passé révolutionnaire de son pays que Barbeau se saisit des termes et des symboles clés de l'histoire de France, afin d'imaginer une révolution à venir, en l'occurrence un complot qui permet aux francs-maçons de se saisir des leviers de l'État. Barbeau ne ménage pas ses descriptions de ce qui en suit. Et je cite, « La terreur avait recommencé, ou plutôt peut-être la commune, mais plus dangereusement organisée, plus méthodique, plus sanglante, plus légale, entre guillemets, plus démoniaque encore, suffoquant toute justice et couronnant l'iniquité. Fin de citation. Pour décrire les événements uchroniques formant la trame de son récit, Barbeau opère le télescopage de la Révolution de 1789 avec la rébellion parisienne de 1871. En effet, les francs-maçons de Paris en feu semblent s'inspirer de la Grande Révolution lorsqu'ils forment un comité de salut public qui, lui, dresse deux guillotines, tant sont nombreux les ennemis du nouveau régime. En même temps, Paris en feu rappelle la littérature anticommunarde lorsque ce texte évoque les viols et les meurtres commis par, et je cite, « la populace ivre de sang, folle de débauche, qui allait finir sa journée dans les églises dévastées, transformées en balles publiques, en cinéma pornographique et en café-concert ». Fin de citation. Bien plus qu'un règlement de compte politique, cependant, ce télescopage de 1789 et de 1871 sert plus généralement à dénoncer toute une période où le règne politique avait pris l'ascendant sur le règne religieux. Barbeau ne cesse de souligner l'écart entre la légalité des massacres orchestrés par les francs-maçons et la véritable justice, à savoir la justice religieuse bafouée par les lois humaines. Aussi faut-il reconnaître dans la figure du franc-maçon une synecdoque qui sert à évoquer toute la sphère politique, sans distinction aucune. En effet, une lecture attentive de la nouvelle commune mise en scène dans Paris en feu nous montre que Barbeau condamne en bloc et le courant versaillais et le courant communard. L'un comme l'autre représente l'avatar d'une même fausse idole, ou pour reprendre les termes propres à Barbeau, une même idole satanique, érigée dans une société organisée autrement que par la théologie catholique. Une lecture historique littérale révèle donc les dérives d'une société qui s'éloigne d'une cosmologie religieuse pour se vouer à une politique bien trop humaine. Si cette première approche peut nous aider à comprendre les références politiques et idéologiques du roman, Paris en feu contient autant d'éléments qui achoppent à une lecture purement historique littérale du texte. En particulier, ce sont les caractéristiques empruntées du roman d'anticipation qui révèlent en quoi l'historia élève le lecteur pour lui permettre de percevoir les niveaux allégoriques et moraux du texte. C'est un aspect du roman qui s'enracine d'abord dans le sens onomastique des personnages principaux de Paris en feu, les frères Félix et Victorien d'Antenne. Tandis que le prénom de Félix désigne ce personnage comme un être heureux, en latin Félix, dans sa foi catholique, l'appellation de Victorien annonce la conversion à laquelle il est voué. Pour que ce scientifique incroyant puisse remporter une victoire sur les zeppelins allemands et en même temps sur les usurpateurs francs-maçons, Victorien doit apprendre à mettre sa science au service de la foi et de la morale catholique de son frère. Tandis que le prénom de chacun de ces personnages nous révèle son caractère individuel, c'est l'étrange patronyme de Dantène qui sert à désigner le rapport avec le monument qui domine le roman, la Tour Eiffel. Tout d'abord, c'est en tant que directeur de la télégraphie sans fil que Victorien est responsable de la plus grande antenne de Paris. C'est lui qui règle l'émission des ondes radiophoniques qui se répandent à partir de la tour. Or, le fait que Félix, aussi bien que Victorien, porte le nom de Dantène nous indique déjà que les significations de la radiophonie dans Paris en feu dépassent le cadre des descriptions pseudo-scientifiques que l'auteur nous en donne. Justement, Barbeau fait de la tour le cœur d'une véritable peau électromagnétique. Il s'agit d'une espèce de tissu vivant et sensible qui unit toute la France dans l'espace et dans le temps. Le contraste est déjà clair entre l'unité offerte par les ondes hertziennes et le chaos entraîné dans la sphère politique. Quant à la signification allégorique et morale de la tour Eiffel, nous pouvons la deviner en tenant compte de la féminisation de ce monument dans la tradition populaire. Le patronyme de Félix et de Victorien les désignant comme étant de l'antenne, ses frères appartiennent de ce fait à la Dame de Fer. Et, lorsque nous suivons cette chaîne de symboles jusqu'au bout, ils sont également les fils symboliques de ce monument au cœur d'un réseau hertzien. Cet alliage des aspects féminins et maternels de la Tour Eiffel avec sa stature monumentale révèle donc en elle une sorte de déesse-mère. Ou tout du moins, c'est ce qu'indique encore le jeu de l'onomastique. Car si le prénom de Félix correspond à l'adjectif latin qui veut dire « heureux », ce terme partage à son tour une étymologie commune avec « felare » ou « allaiter », aussi bien qu'avec « femina ». Ainsi liée à la foi catholique du personnage de Félix, la maternité sacrée que Paris en Feu attribue à la tour Eiffel dévoile sa vraie nature. Cette antenne qui domine la capitale et qui étend son réseau sur toute la France serait une figure allégorique de la Sainte Vierge, telle que Barbeau et Blois se représentent ce personnage de la foi catholique. Or, quel peut être le but de cet alliage de la science hertzienne avec le mysticisme bloyen? Certes, nous pouvons y voir les restes de l'occultisme ancien de Barbeau, qui aurait certainement connu les thèses spiritistes, voulant que le magnétisme soit le ressort de la communication médiumnique. Nous devons également reconnaître dans les ondes hertziennes un symbole de la modernité, qui sera reprise et amplifiée après la Grande Guerre par les surréalistes, par exemple, qui désigneront leur première tentative d'écriture automatique sous le titre des champs magnétiques. Si ces pistes ne sont pas négligées, toujours est-il que l'image de l'onde électromagnétique joue un rôle propre à l'intertexte liant Barbeau à Blois. En effet, c'est dans une lettre de 1903 à son nouvel ami que Blois décrit le rapport dans les termes suivants. Je le cite. « Lorsque tu accomplis un acte bon ou mauvais, rappelle-toi qu'il y a des âmes sans nombre, des âmes de vivants ou des âmes de prétendus morts qui correspondent mystérieusement à la tienne, toute ta parenté spirituelle qui ne te sera visible que dans la lumière. » Âmes d'esclaves ou d'empereurs et ont pu animer des corps il y a 5000 ans ou les animant à cette heure, lesquels ont un besoin infini de toi. » Fin de citation. Tandis que Barbeau présente le déploiement du fluide magnétique à travers le temps et l'espace, Blois décrit la communion des saints comme un réseau clandestin qui défie toute raison profane pour relier des âmes amies. Le réseau invisible du champ magnétique évoque donc le mysticisme bloyen comme une alternative à la sphère politique ayant entraîné le désordre dans Paris en Feu. C'est un sens allégorique qui ne devient que plus clair lorsqu'on tient compte de la conclusion du roman. Victorien s'étant converti au catholicisme de son frère, il emploie la tour Eiffel pour émettre une onde hertzienne qui détruit Paris et les zeppelins allemands. L'histoire s'achève sur une image de la Dame de Fer dominant un champ de ruines où seules les églises ont pu résister au feu électromagnétique. Cependant, même le sens moral de Paris en Feu, aussi clair soit-il, ne peut épuiser la signification d'un texte qui se situe également sur le plan anagogique. Justement, le rapport intertextuel que Paris en Feu maintient avec celle qui pleure témoigne d'une structure verticale qui est le propre de l'anagogie. En particulier, l'intertexte Blois-Barbeau ne se présente pas sous la forme d'un lien horizontal, si je puis dire, qui relierait deux écrits se situant sur le même plan. Au contraire, en faisant écho à celle qui pleure, et à plus forte raison aux révélations ayant inspiré ce texte, Barbeau désigne une catégorie de savoir qui dépasse les capacités de la connaissance humaine. À travers cette prophétie transmise par la Sainte Vierge, Barbeau désigne le savoir absolu d'où émane cette annonce de l'avenir. Pour comprendre l'importance de cette structure verticale, il faut reconnaître que la dimension intertextuelle de Paris en Feu évoque non seulement un texte de Blois, mais plus généralement encore toute la conception bloyenne de l'écriture. Car Blois n'est ni un lecteur, ni un auteur comme les autres. Au contraire, c'est par le personnage principal du désespéré, Cahin Marche Noir, que Blois nous offre une vision claire de son mode de lecture anagogique. Je cite « Appuyé sur l'affirmation souveraine de saint Paul, que nous voyons tous en énigme, Marche Noir avait fermement conclu du symbolisme de l'écriture au symbolisme universel, et il était arrivé à se persuader que tous les actes humains concourent à la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères, qu'on pourrait nommer les paralipomènes de l'Évangile. De ce point de vue, l'histoire universelle lui apparaissait comme un texte homogène, extrêmement lié, vertébré, ossaturé, dialectiqué, mais parfaitement enveloppé et qu'il s'agissait de transcrire en une grammaire d'impossible accès. » Fin de citation. Vu ainsi, le rôle d'un auteur n'est pas de faire de son texte le reflet du monde matériel. Au contraire, Blois veut rompre avec la fonction mimétique de la littérature afin de cultiver sa fonction anagogique qui part du principe que l'écriture peut être le moyen de voir au-delà du monde des apparences. L'Évangile, comme les révélations faites par la Sainte Vierge, représenterait donc de rares indices quant aux règles grammaticales qui organisent le livre de toute l'existence humaine. Le rôle de l'auteur serait ainsi de contribuer à l'exégèse du monde matériel et non pas de nourrir les illusions de l'ici-bas en acceptant le mimétisme de la littérature profane. Quant à Paris en feu, l'optique anagogique peut nous aider à comprendre son étrange alliage du roman d'anticipation avec les révélations de Notre-Dame de la Salette. L'importance de ces prophéties dans le roman de Barbeau tient de leur capacité à situer le récit de Paris en feu en dehors des structures temporelles et matérielles du monde profane. C'est-à-dire que les prophéties servent à montrer que le véritable sujet de Paris en feu n'est pas les événements prévus par le texte, aussi remarquables soient-ils, mais l'ordre théologique qui constitue l'ordre invisible organisant ce chaos apparent. Aussi le roman de Barbeau représenterait-il sa petite contribution à l'exégèse engagée par Blois, exégèse qui vise à comprendre la grammaire et la syntaxe de l'histoire universelle. De là l'importance du hasard qui a voulu que la Grande Guerre éclate quelques semaines après l'apparition de Paris en feu. Blois reconnaît dans ce conflit la confirmation du récit de Barbeau, qu'il avait déjà décrit comme, et je cite Blois, « cet homme effrayant qui paraît savoir l'avenir le plus proche et qui le raconte avec la précision d'un damné qui reviendrait de l'enfer ». Fin de citation. En effet, déjà en juillet 1914, Blois avait écrit à propos de Paris en feu, je cite, « nulle autre conjecture n'est admissible. Je pense que ce prophète a raison très probablement ». Fin de citation. On peut imaginer le peu de doute que Blois avait face aux événements qui sont produits quelques semaines plus tard. C'était l'histoire de Paris en feu qui se réalisait devant ses yeux. Toutefois, même lorsque le tournant de la guerre semblait confirmer le récit de Barbeau, la signification de cette preuve ne tenait pas de la prophétie elle-même. Au contraire, peu importe le fait d'avoir prédit l'avenir dans l'ici-bas, quand cette prévision indique que Barbeau avait su déchiffrer la grammaire et la syntaxe de l'au-delà. Dans le contexte du mysticisme bloyen, prédire l'avenir, c'est percer les mystères du langage sacré qui constituent les structures de l'existence même. Certes, la guerre décevra Blois lorsque le conflit européen s'avérera ne pas être, comme il l'avait espéré et comme Barbeau l'avait annoncé, l'instrument du châtiment expiatoire de la France. Paris ne sera pas détruite, l'État ne s'effondrera pas et aucun feu électromagnétique ne se déchaînera. Or, la déception de Blois n'est pas celle d'un homme qui s'est trompé sur l'avenir. Au contraire, il est question du désarroi bien plus grave d'un croyant qui pensait tenir les moyens de décoder l'existence, mais qui n'arrive à décrypter que de faux messages. Aussi, la déception de Blois face à Paris en feu semble-t-elle avoir été double. Il s'agit d'abord d'une déception eschatologique, puisque Blois se lamente que, et je cite, « cette guerre n'est donc pas et ne peut pas être la fin », F majuscule. Fin de citation. Mais il s'agit également d'une déception épistémologique, portant sur le projet exégétique que Blois avait déjà décrit dans Le Désespéré. Car si ce croyant ne renie en rien son catholicisme apocalyptique, toujours est-il qu'il semble avoir abandonné l'ambition de percer les mystères de la sphère religieuse. Et je cite encore une fois Blois. « Dieu veut agir bientôt en se manifestant lui-même d'une manière inouïe que nul ne peut prévoir. » Fin de citation. « Que nul ne peut prévoir. » Voici un aveu d'impuissance de la part d'un croyant qui s'était fixé comme finalité la tâche de transcrire la grammaire et la syntaxe de l'histoire universelle. En effet, la complexité de l'intertexte liant Barbeau à Blois nous révèle ce qui semble être un tournant dans la foi de celui-ci. Si auparavant Blois désirait percer le voile de l'au-delà, il paraît avoir renoncé à cette ambition suite à son trop grand investissement religieux et affectif dans Paris en feu. Faute de cette grammaire et de cette syntaxe sacrée, Blois devra donc finir sa vie en se contentant de faire de sa déception et de son désespoir des actes de foi. Merci.